Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes deux cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des mathématiques avec Marc-Olivier Roux, qui est psychologue, psychopédagogue en mathématiques et formateur. Donc son travail est de comprendre ce qu'il y a en dessous des mathématiques. Un enfant qui est en difficulté en maths peut avoir des soucis cognitifs ou bien des soucis psychologiques, ou les deux. Comme dit Marc-Olivier, les mathématiques, ce n'est pas que des mathématiques. Donc Marc-Olivier a utilisé des métaphores pour décrire les trois cas de figure possibles ou les trois profils possibles. Il a également parlé des enfants qui ont des difficultés avec certains nombres, hein, comme le 70, le 80, et de l'importance de tisser un peu autour, de ne pas rester bloqué sur cette difficulté, et de continuer de travailler avec des nombres plus simples pour l'enfant, ou d'autres nombres qu'il maîtrise mieux. Je laisse place à ma conversation avec Marc-Olivier. Bonjour Marc-Olivier, bienvenue sur le podcast.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors, est-ce que vous voulez déjà commencer par vous présenter pour les auditeurs ?
Oui, alors donc Marc-Olivier Roux, alors, je suis psychologue et j'ai une fonction de psychopédagogue. Je fais de la psychopédagogie des mathématiques, qu'on peut aussi appeler de la remédiation en mathématiques. Et je travaille dans différents endroits. Je travaille en CMPP. Alors CMPP, ce sont des centres de consultation pour les enfants et leurs familles qui sont reçus par une équipe pluridisciplinaire et qui viennent après faire des séances régulières, soit avec un orthophoniste, soit avec un psychologue, un psychopédagogue, un psychomotricien. Voilà, c'est assez varié comme type de prise en charge. Souvent, c'est des enfants qui viennent, alors au CMPP en général, ils viennent pour différents types de difficultés dans leur vie familiale ou scolaire aussi, pour les problèmes d'apprentissage. Et donc, dans ce cadre-là, alors je travaille au CMPP de Beaumont-sur-Oise dans le Val-d'Oise, d'une part, et aussi à Paris, au centre Claude Bernard. Et donc, dans ce cadre-là, je fais de la psychopédagogie des mathématiques, c'est-à-dire que je reçois des enfants, des adolescents, qui viennent avec quelque chose qui ne va pas autour des mathématiques. Et on travaille ensemble autour de ces questions, sur ces questions. Bon, je ne vais pas développer là tout de suite, mais c'est un travail qui a une dimension à la fois technique, hein, de remédiation, et puis une dimension, on va dire, relationnelle, au niveau de, parce que les mathématiques, ce n'est pas juste de la technique, c'est aussi comment on se place par rapport aux mathématiques quand on est un élève, comment on se situe, comment on prend les choses, comment on prend cette matière qui est parfois un peu particulière.
D'accord. Et si un parent répète en boucle à la maison « Oh, quand j'étais enfant, j'étais nul en maths, je détestais les maths », quelle influence cela peut avoir sur l'enfant ?
Alors, c'est vrai que c'est souvent quand on rencontre l'enfant et ensuite on parle un peu avec les parents, enfin, c'est comme ça que je fais en général, et c'est vrai qu'il suffit de pas grand-chose pour que les parents vous racontent un peu comment c'est pour eux avec les mathématiques. Ça vient très vite. C'est quelque chose qui est assez spontané. Et c'est là qu'on voit effectivement des discours, le discours des parents et leur histoire, où parfois ça ressemble à celui de l'enfant. Ou alors dans la famille, il y a différents types de configurations. Vous pouvez avoir, par exemple, le grand frère qui est bon en maths, comme son papa, par exemple. Je vous dis ça parce que c'est ce qui vient régulièrement. Ce n'est pas toujours comme ça, hein. Mais c'est quand même des configurations assez fréquentes. Et là-dessus arrive la petite sœur, elle, qui n'est pas bonne en mathématiques, et sa maman qui dit « Oh ben moi, j'étais pareil à l'école, je ne comprenais rien en mathématiques. » Vous avez des choses comme ça, où il y a à la fois de la réalité, hein, il décrit des situations, et aussi vous avez de l'imaginaire, c'est-à-dire comment chacun il se situe dans une famille autour de cette question-là. Les mathématiques, ça peut être l'endroit où se jouent des choses au niveau familial, au niveau de, comme on dit en psychologie, des identifications, au niveau de la reconnaissance de chacun, au niveau de la place que chacun peut prendre, notamment à l'adolescence, où chacun, effectivement, chaque enfant doit prendre une place et se situer. Donc oui, c'est quelque chose qui vient souvent. Alors, l'intérêt, c'est de, au moins que ce soit dit, c'est que ce soit dit et entendu, et qu'on tienne compte qu'il y a un contexte familial, alors qu'il peut tenir à plein de choses, hein, de la réalité, de l'imaginaire, et que, évidemment, ça joue sur comment l'enfant, après, il arrive à être élève, et à faire des mathématiques, ou à ne pas en faire, ou à en faire mal, ça fait partie de la question, effectivement.
Et est-ce que cet entourage familial, ça peut être donc une des causes des difficultés de l'enfant en mathématiques? Et quelles sont les autres possibilités? D'où peuvent venir les autres difficultés d'un enfant en mathématiques?
Alors oui, le point commun, c'est que... ils ont des difficultés en mathématiques, voilà. Ou comme ils disent, ils sont nuls en maths, ou des choses comme ça. Ça, c'est le point commun à ces enfants adolescents. Après, en fait, dès qu'on les rencontre, on voit bien que ça recouvre beaucoup de contextes différents. C'est-à-dire, à mon avis, enfin, dans mon expérience, on ne peut pas donner une raison à la difficulté en mathématiques. On ne peut pas la donner a priori. On ne peut pas savoir. Parce que d'abord, il n'y en a pas une, il y en a plein, et que c'est différent pour chacun. Donc, en fait, c'est derrière le même symptôme, vous avez plein de situations qui sont différentes. Alors, je peux vous dire un peu comment je vois les choses. Hein. Je pense qu'en fait, quand vous faites... Alors, l'enfant, il fait des mathématiques pendant une bonne dizaine d'années, hein, dans son enfance, hein, si je peux dire. Et là, il ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que toute l'école primaire, même la maternelle, l'école primaire, le collège, voilà, il doit faire des mathématiques, que ça lui plaise ou non. Bon. Et dans ce parcours, en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que c'est compliqué. Par exemple, bah d'abord, il y a le contenu mathématique lui-même, c'est-à-dire que les notions qu'on apprend à l'école, elles sont souvent plus complexes que ça en a l'air au premier abord. Notamment pour l'enseignant, parce que l'enseignant, lui, il est adulte, il est professionnel, parfois il est même mathématicien, enfin voilà. Donc il ne se rend pas toujours compte que des notions élémentaires ne sont pas forcément évidentes à comprendre pour un enfant. Et je pense qu'il y a une difficulté propre aux notions mathématiques elles-mêmes. Même les notions les plus primaires, hein, c'est-à-dire que le nombre, vous voyez, le nombre 3, ça a l'air tout bête, mais... c'est pas si bête que ça et c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit quand on est adulte. C'est pour ça qu'il y a certains enfants pour qui ils voient bien trois trucs ou trois machins, mais trois tout seuls, ça n'a pas beaucoup de sens pour eux, par exemple.
Oui.
Parce qu'en fait, c'est déjà des notions abstraites.
C'est ça.
Déjà. Ou même le carré, la droite, vous voyez, c'est tout bête, mais en même temps, c'est une droite. Certains disent une droite, c'est une longueur sans épaisseur. Ce qui n'est pas bête, enfin c'est une façon de voir les choses. Hein. Parce que finalement, une droite, ce n'est pas une ligne avec une épaisseur. Quoi. L'enfant qui confond un objet concret avec l'objet mathématique, mais déjà, il est dans un malentendu de base qui peut le suivre très longtemps. Donc même pour des notions comme ça. Alors évidemment, après, l'algèbre et tout, c'est aussi compliqué. Donc il y a vraiment des difficultés qui tiennent aux notions elles-mêmes. En plus, souvent dans les notions, vous avez des mauvaises surprises au fur et à mesure. C'est-à-dire, par exemple, l'enfant à l'école primaire, on lui dit, ben voilà, tu vois, ça c'est un carré, ça c'est un rectangle. Alors surtout, ne les mélange pas. Hein. Ce qui est, oui, il faut qu'il ne les mélange pas, c'est vrai. Et puis plus tard, on lui dit, tu sais, le carré, c'est un rectangle.
Mm.
Vous voyez, au collège. Mm. Donc il ait compris ça, sinon il ne comprend rien. Mm. Donc il est obligé de changer sa façon de voir. même pour les nombres, on lui dit, ben voilà, on lui dit par exemple à un moment que 2,5, bon, c'est un nombre décimal, mais du coup, 2, c'est aussi un nombre décimal, ce qui n'est pas forcément attendu, ça peut surprendre. Voilà, il y a plein de choses comme ça que l'enfant il doit traverser, qu'on lui demande d'apprendre, de comprendre, de conceptualiser, et qui peuvent être des sources de difficultés en soi. Bon, ça, c'est les aspects mathématiques, des mathématiques. Hein, c'est qu'en soi, il y a déjà des complexités.
Oui.
Et puis, le problème, c'est qu'il y a en plus des complications qui vous arrivent en plus, soit au niveau cognitif, soit au niveau psychologique. Là, c'est comme ça que je prends un peu les choses. C'est-à-dire que les mathématiques, ce n'est pas que des maths. Quand on fait des mathématiques à l'école ou au collège, bien sûr, il y a les contenus, mais il y a aussi tout le cognitif qui est mobilisé par les mathématiques.
Ah oui, vous voulez dire, par exemple, la mémoire de travail à court terme. Si la mémoire de travail à court terme a une faible capacité, bah, pendant la multiplication, s'il y a eu un échange, bah, on va oublier l'échange, en fait, c'est ça?
C'est ça, par exemple, voilà. La mémoire de travail, les compétences visio-spatiales, c'est très important en mathématiques. Mm. Par exemple, on a montré que c'était un des prédicteurs de la réussite en mathématiques. Alors, prédicteur au sens statistique, hein, pas au sens on va prédire, mais c'est au niveau statistique. Les compétences visio-spatiales d'un enfant tout jeune, hein, qui commence l'école, sont corrélées à ses performances en mathématiques ultérieures.
D'accord.
C'est-à-dire que ça montre que le visio-spatial, par exemple, la façon dont l'enfant il se repère à ce niveau-là, c'est important pour faire des maths. Les autres fonctions cognitives aussi, hein, le langage, ça joue aussi en mathématiques. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, les enfants qui ont des troubles du langage, soit oral, soit écrit, pas toujours, mais souvent, ils ont aussi des problèmes avec les mathématiques. Des problèmes qui ont une allure un peu particulière, hein, parce que ça vient de leur difficulté de langage. Mais ça peut aussi leur c'est-à-dire, autrement dit, toute fonction cognitive qui aurait un petit accro, eh ben, il y a un risque que ça gêne pour faire des mathématiques. Ce n'est pas obligé, mais c'est possible. C'est une matière sensible, hein, les maths, au niveau cognitif.
Et est-ce que cela vient du fait que les maths, il y a un côté abstrait? Si c'était moins abstrait, par exemple, est-ce que vous pourriez dire la même chose du français ou pas?
Alors, je ne suis pas spécialiste du français. Oui. Mais je pense qu'il y a une différence entre les mathématiques et d'autres matières. Alors, c'est vrai, on dit l'abstraction. Bon, c'est un mot un peu compliqué parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais on a une idée de ce que ça veut dire quand même. Et on l'utilise parfois. C'est vrai que ce sont des objets abstraits, c'est-à-dire des objets qui n'existent pas. Par exemple, si vous mettons un enseignant qui va se promener, qui va dans la forêt avec ses élèves pour faire une classe découverte, il peut très bien leur dire à un moment, regardez bien autour de vous, et puis après ils reviennent en classe et il leur dit, l'enseignant, alors vous avez vu toutes ces droites parallèles? C'est-à-dire que l'enseignant, lui, il a vu des parallèles, parce qu'il a vu des arbres bien alignés, vous voyez, des troncs parallèles. Mais l'enfant, il a pas vu de parallèles, il a vu des arbres. Vous voyez? Et il peut y avoir un malentendu à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on croit que l'élève, il voit la même chose que nous. Mais s'il n'a pas le concept en tête, l'élève, il ne voit pas. Il voit des arbres. Ou il voit des fleurs, alors qu'on voudrait qu'il voit des nombres, par exemple. Ou il voit des parts de gâteau, alors qu'on voudrait qu'il voit des fractions.
Oui.
Ce n'est pas parce qu'il voit perceptivement la même chose que nous, que dans sa tête, il a le même objet abstrait que nous.
Oui, oui.
Et quand ils sont... c'est une source de problème, ouais.
Et quand ils sont petits, le chiffre 3, enfin, le nombre 3 peut être complètement abstrait. Alors quand dans la forêt, si on leur dit c'est un arbre ou c'est une biche, ben ils peuvent, voilà, on pointe du doigt, ils voient ce qu'est un arbre ou une biche. Alors que le nombre 3, si on leur apporte pas de matériel concret, ils ne savent pas ce que c'est 3.
Oui, 3, c'est très difficile à se représenter. Mmh. Parce qu'on peut leur montrer 3 arbres, mais après, il faut qu'ils voient 3 quand c'est 3 fleurs ou 3 biches ou 3 puces ou 3 mammouths ou 3 idées. Mmh. 3, c'est ce qui est commun à tout ça, en fait.
Oui, oui.
Et le risque, c'est que, parce que, évidemment, il faut, comme c'est abstrait, on met du concret, ce qui est logique, mais il y a un risque aussi, c'est que l'enfant, il voit que le concret.
D'accord.
Ça, c'est le...
Et qu'il ne passe pas à l'abstraction au final, quoi.
Voilà, parce qu'on lui montre 3 arbres en lui disant, bah, tu vois, ça, c'est 3, Bah après, si vous lui montrez trois stylos, c'est pas garanti qu'il fasse le lien. Alors que la couleur rouge, vous pouvez lui montrer du rouge, ça se voit mieux. Enfin, on a l'impression que ça se voit mieux, en tout cas. Donc ça, c'est une difficulté, effectivement, qui peut se poser et qui se pose, je dirais, un peu à tous les âges. Hein. Parce qu'après, par exemple, au collège, on demande à l'élève de manipuler pi. Vous savez, pour, quand il y a des cercles, il faut calculer avec pi. Et certains élèves, ils peuvent vous dire, bah oui, mais moi, je vois le cercle qui est dessiné, là. Je vois le rayon, il est dessiné. Mais je vois pas pi. Et ils ont un peu raison. Pi, il est nulle part. Alors, on peut le représenter en faisant des manipulations avec un cercle particulier, d'accord, mais il est nulle part. Ou le sinus d'un angle, il est nulle part dans le dessin. C'est dur à penser, ces notions mathématiques.
Et même sans aller jusqu'à ces notions assez complexes, quand j'accompagne des professeurs des écoles lors de mes formations Montessori, ça m'est arrivé plusieurs fois que des professeurs des écoles comprennent la division grâce au matériel. Donc division et puis les nombres carrés, les nombres cubes. Voilà, j'ai une maîtresse en CE2 qui a vraiment ah mais ça veut dire ça au carré, ça veut dire ça au cube. Enfin, donc du coup j'aimerais vous demander comme les maths c'est quand même abstrait. Qu'est-ce que vous pensez du coup du matériel Montessori qui permet de rendre les choses concrètes et d'aller au fur et à mesure vers l'abstraction?
Oui. Alors le problème, le mot concret, il a peut-être plusieurs sens. Oui, c'est pas le même concret de prendre, par exemple, pour ce que je connais du matériel Montessori, hein, je ne suis pas non plus spécialiste, mais j'utilise des médiations, moi, en remédiation, qui sont souvent du matériel. Mais ce n'est pas forcément concret, au sens de figuratif, si vous voulez. Vous voyez, c'est du matériel que les enfants manipulent, et ça, c'est très bien. Moi, je pense que c'est vraiment c'est essentiel, en classe aussi, hein, d'ailleurs. C'est du matériel à manipuler pour, par exemple, comme vous disiez, comprendre que quand on dit que 3 au carré, ça fait 9, le au carré, que ça, c'est parce qu'il y a un vrai carré qu'on peut faire en vrai avec des jetons. Et ça fait un carré. Alors que 10, ça ne fera jamais un carré avec des jetons. C'est pour ça que ce n'est pas un carré, 10. Ça, oui, c'est l'essentiel, c'est une part essentielle du travail à faire. Avec du matériel qui est, on va dire, tangible, mais qui ne représente pas forcément des petites fleurs ou des animaux ou des. Vous voyez, c'est encore différent, ça. Par contre, une fois qu'on a installé une notion avec du matériel manipulé, on va faire le lien avec le concret figuratif.
D'accord. Donc,
par exemple, les dizaines, les centaines avec du matériel. Après, on va voir comment ça se décline. Par exemple, quand on a des billets de 10 euros ou des billets de 100 euros, des choses comme ça. Je pense qu'il faut faire ça aussi, hein. faut tout faire en fait. Et comme vous disiez, par exemple, pour le sens de la division, effectivement, même avec des adultes, hein, il faut souvent revenir à qu'est-ce que ça veut dire 15 divisé par 3 avec des jetons. Et le faire en vrai. Ne serait-ce que pour s'apercevoir qu'il y a deux façons de le faire, 15 divisé par 3, si vous avez 15 jetons.
Si c'est 15 unités, on peut les partager, mais si c'est une dizaine et 5 unités, on ne peut pas partager la dizaine en 3.
Ah oui, oui, dans ce cas-là, oui. Donc, même si vous avez 15 unités, on vous dit, faites 15 divisé par 3. Faites-le en vrai, quoi. Parce qu'ils savent tous que ça fait 5, hein, les adultes. Oui. Ce n'est pas le problème. Mais les élèves aussi, d'ailleurs, ils savent. Mais 15 divisé par 3, il y a deux façons de le faire avec les jetons. Vous avez la façon où vous prenez vos 15 jetons et vous les partagez en 3 paquets, en 3 parties. Et on voit qu'il y a 5 dans chaque partie, hein. Ça, c'est une façon. Et puis, vous avez la deuxième façon où vous avez 15 jetons et vous faites des groupes de 3 jetons. Vous voyez ? Je prends 3, je prends 3, je prends 3 jusqu'à épuiser les 15. Et ça, en fait, les élèves, souvent, quand je leur demande de faire ça, ils savent faire une façon, mais pas les deux. Ils n'en connaissent qu'une. Et d'ailleurs, souvent, ce n'est pas la même que celle des adultes. Hein. C'est un effet de génération, apparemment. Bon, enfin, peu importe. Alors que dans les problèmes à l'école, on leur demande les deux au travers des problèmes de division. C'est-à-dire que, et si l'enseignant il n'a pas conscience qu'il y a les deux sens de la division, il ne va pas l'enseigner à ses élèves. Et du coup, ses élèves, ils ne sauront pas que la division, ça se fait aussi dans tel type de problème ou tel autre type de problème.
Je ne suis pas sûre d'avoir compris la deuxième solution. J'ai l'impression qu'une fois, vous avez fait 15 divisé par 3 et une fois, vous avez fait 15 divisé par 5. 3 fois 5 ou
Non,
5
non,
fois
non.
3, non?
C'est toujours 15 divisé par 3. Mais
D'accord.
c'est deux gestes différents. Sauf que le 3 dans la deuxième solution, qui vous est moins familière parce que vous êtes une adulte, et que les adultes, ils ont la première, les adultes.
Oui.
Les enfants, ils ont la deuxième. Si vous le faites avec votre gamin, c'est un gamin, 15 divisé par 3, il y a des chances qu'il fasse 15 jetons et qu'il fasse des paquets de 3 avec. Des paquets de
D'accord.
3 jetons. Et
Mais
non
là,
pas 3 paquets.
il n'est pas en train de partager en trois s'il fait des paquets de trois jetons.
Il divise par 3.
Ah, ouais,
Quand
d'accord.
même. Si, si. Et il va trouver 5, sauf que ce ne sera pas le même 5 que vous.
D'accord.
Mais le résultat sera le même.
D'accord.
Et à l'école, on va lui demander les deux types de problèmes. Du genre, par exemple, avec 15 euros, j'ai pu acheter 3 stylos. Donc ça, c'est le premier style. Et l'autre style, c'est avec 15 euros, j'ai acheté des stylos qui coûtent 3 euros chacun.
D'accord.
Et là, on lui demande combien j'ai acheté de stylos. Et c'est une division, c'est la même division, c'est 15 divisé par 3. Sauf que là, il faut que l'élève, il connaisse ce sens-là aussi.
Oui, d'accord.
En fait,
Et
donc,
donc
c'est ça qu'on fait.
c'est le sens en fait qui est important
Oui,
aussi.
c'est ça. Et c'est ça qu'on fait avec du matériel, par exemple. J'ai fait un peu un détour hein, pour revenir à la question. Le matériel, ça sert à ça, effectivement, à visualiser et à manipuler très souvent pour montrer du concept. Qui sera après utilisé dans des situations concrètes, hein, bien sûr. Mais il faut en passer par là. Hein. Ouais.
Ouais. Et j'aimerais rebondir du coup sur le sens. Parce que hier à la maison, mon mari et ma fille ont remarqué qu'il y avait, je ne sais plus, 530 j'aime lire depuis les premiers j'aime lire. Je me trompe peut-être dans le nombre, hein, mais c'était 500 et quelques. Et mon mari lui a dit, tu crois qu'ils en ont. Ça fait combien d'années qu'ils publient, sachant qu'ils en publient un par mois, depuis combien d'années, enfin, à quelle date ils ont commencé à publier le premier J'aime lire? Et en fait, elle a dit 530 divisé par 12. Et du coup, mon mari lui dit, ah oui, bah, chouette, c'est ça. Et ma fille, elle fait, non, mais tu sais, à l'école, j'aime pas les problèmes parce que c'est des problèmes qui n'ont pas de sens. Du genre, j'ai 4 mètres de rouleau de papier cadeau. J'ai besoin de 40 cm pour faire un paquet. Combien de paquets je peux faire? Et je comprends en fait qu'elles disent que ça n'ait pas de sens parce que dans la vie, c'est on va pas emballer le nombre de paquets cadeaux en fonction de la longueur du rouleau. Donc, quelle est l'importance? Enfin, je pense que je connais la réponse, mais comment on pourrait faire pour que les enseignants me remettent du sens en fait dans les mathématiques et dans les problèmes? Alors déjà, le mot problème, il fait pas envie, mais
Oui, alors c'est vrai, souvent les. Alors, oui, le mot problème, bon, c'est vrai qu'il est un peu lourd. En même temps, il faut peut-être s'y habituer aussi pour le dédramatiser parfois. Enfin, mais oui, c'est vrai. Et puis, le problème, c'est que justement, on leur donne des problèmes. C'est vrai qu'ils ne sont pas toujours dans le contexte de la vie de l'enfant lui-même. Hein. Alors, peut-être que, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas dans la classe, mais peut-être que parfois, ce n'est pas toujours évident aussi de trouver des situations en fonction de la notion qu'on veut enseigner. De trouver des situations qui soient toujours vraiment des situations de la vie de l'enfant lui-même. Et puis je pense que les enfants, ils ont des vies différentes aussi. Donc ce qui est familier pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Mais c'est vrai que ça leur demande cet effort-là aussi aux élèves de rentrer dans ce type de monde et puis qui est parfois virtuel, hein. C'est-à-dire qu'on leur demande de faire des trucs qu'ils feront peut-être jamais dans la vie, hein. Comme plus tard au collège, le théorème de Pythagore, ça ne sert pas à tout le monde tous les jours, hein, c'est vrai. Mais c'est ça aussi les mathématiques. C'est pouvoir rentrer dans un monde qui n'est pas forcément directement relié à notre monde quotidien, mais qui permet de faire des expériences de pensée, de se voir fonctionner, de faire des calculs, de faire du raisonnement. Qui n'ont pas forcément une utilité tout de suite, ni directe, c'est vrai. Mais c'est de pouvoir faire quand même ça, même si le lien n'est pas forcément direct. Ce qui peut être compliqué pour certains élèves aussi, parce qu'il y en a qui ont plus besoin que d'autres de s'accrocher au réel. En fait, vous avez trois types de difficultés, si je puis dire. Vous avez les enfants qui sont trop accrochés au réel, ce qui peut être un problème quand c'est trop, parce qu'ils n'arrivent pas à décoller. Et pour faire des mathématiques, il faut décoller. Les maths, c'est comme un voyage en avion, si vous voulez. À un moment, il faut quitter la terre ferme pour la retrouver à la fin. C'est ça le but. Donc, il faut décoller. Donc, ceux qui n'arrivent pas à décoller, bah, ils sont gênés. Vous avez ceux qui décollent, mais alors eux, ils perdent le nord, si je puis dire. Ils s'envolent, on ne les retrouve plus. Ce qui n'est pas forcément bon non plus, parce qu'ils peuvent faire des maths, mais de façon un peu comme ça. Ils sont comme des électrons libres, quoi. Et puis, l'idéal, c'est de pouvoir décoller, de faire des mathématiques un peu abstraites pendant un certain moment, et puis de retomber sur ses pieds à la fin. Quand même. Et de relier tout ça. De relier l'abstrait et le concret, le symbole et la réalité. C'est un peu ça, l'activité mathématique, à tout âge, en fait.
Et donc, la troisième difficulté, c'est laquelle ?
Oui, en fait, ce n'est pas une difficulté. La troisième, c'est le parcours un peu idéal, je dirais.
Ah oui, d'accord.
Quand on arrive à décoller, à voyager en avion sans voir la Terre, on est dans les nuages, on est dans le langage mathématique, les symboles, on manipule des symboles mathématiques. Et après, on arrive à retomber bien là où il y a l'aéroport pour dire finalement, ah ben oui, j'ai pu acheter 5 stylos une fois que j'ai fait mes calculs.
Oui, oui, donc ça serait un peu les trois. Difficulté, parce que difficulté, j'ai bugué à cause du dernier, ça serait plutôt les trois cas de figure.
Oui, voilà, c'est ça. C'est les trois cas de figure, c'est ça.
Trois cas de figure, d'accord. Et donc, un enfant qui est trop accroché au réel. Alors, je ne sais pas si cette petite-là que j'ai en tête, elle rentre dans cette catégorie, mais j'accompagnais, parce que je ne l'ai pas vu depuis octobre à cause de la Covid, mais j'accompagnais depuis au moins un an une petite fille de 5 ans qui était en grande section, puis ensuite en CP, et qui n'arrivait pas à mémoriser que le nombre 3, il s'appelait 3, que le 5, il s'appelle 5. Ouais. Alors, elle arrive à dénombrer hein, jusqu'à 9, voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand je lui montrais le nombre 3, ben, elle ne savait plus que c'était 3. Et j'ai essayé plein de choses, on y a passé vraiment beaucoup de temps. Et bon, après, voilà, la Covid est arrivée, je ne l'ai plus vue, cette petite. Enfin, j'espère la revoir rapidement, mais ouais, ça fait quand même plusieurs mois que je ne la vois pas. Et comment c'est possible qu'un enfant, au bout de 6 mois, au bout d'un an, n'arrive pas à retenir cette information ? Pour vous, est-ce que c'est un problème cognitif qui, du coup, n'est pas lié aux maths, comme vous disiez tout à l'heure ?
Oui, on peut se poser la question, en tout cas. Elle avait quel âge ? Rappelez-moi, j'ai peut-être...
5 ans.
5 ans. Oui. Bon, elle débute quand même. Elle est débutante, mais... Alors, il faudrait voir, au niveau cognitif, il faudrait voir si elle n'a pas un problème avec le langage en général, hein, ou avec la mémoire en général.
Oui, la mémoire, je pense que c'était vraiment son point faible. Et au niveau langage, son langage n'était pas très élaboré.
Voilà, parce que c'est quand même raccrocher, si j'ai bien compris, il s'agit de raccrocher une quantité avec une étiquette.
C'est ça.
Une étiquette soit verbale, soit chiffrée. Soit orale, soit chiffrée.
Oui.
Et oui, ça, c'est le... Il y a une dimension langagière, puisque le 3 qui s'écrit avec les deux boucles, c'est un signe, au sens linguistique, c'est du langage. Et alors, éventuellement, on pourrait lui faire remarquer que quand on écrit le 3 avec les deux boucles, ça fait 3, il y a les 3 points. Je ne sais pas si vous voyez, je fais des signes avec mes doigts. Mais, on retrouve le 3 dans le chiffre 3 quand il est écrit, éventuellement. Bon. Par contre, ça ne marche plus après pour 4, 5, 6. Hein, ce sont des signes d'un langage. Et moi, je retrouve ça avec des enfants plus âgés qui, par exemple, ne retiennent jamais que 20, ça se dit 20. Quand il y a 2 zéros, ils ne se rappellent pas forcément, alors que 34, ils vous le diront tout de suite quand ils voient 34. Parce que 34, il y a l'indice du 3, du 4, donc 34, on entend un peu, on peut faire des liens. Alors que 20, qui s'écrit 2-0, il n'y a rien qui rappelle, il n'y a pas de lien logique. Pourquoi ça s'appelle 20 ? Il n'y a aucune raison.
Et comment vous faites quand vous êtes confronté à un enfant qui, au bout de plusieurs séances, n'arrive pas à retenir que c'est 20 ?
Alors, on pourrait peut-être... dans ce cas-là, moi, je ne resterai pas sur le 20, si je peux dire. J'irai sur les nombres jusqu'à 100 en partant des réguliers. C'est-à-dire 37, 32, 48. Ça, c'est régulier. C'est-à-dire que la logique du langage suit la logique de l'écriture chiffrée, par exemple. Donc, il y a quand même quelque chose d'un peu plus stable. Alors que 20 ou 80, ou même 70, hein, ou même 15, vous voyez, ces nombres-là, c'est les plus durs. En fait.
Oui.
Ce n'est pas parce qu'ils sont au début qu'il faut les faire au début.
Oui.
Pas forcément. Surtout en remédiation, il faut être souple. Quand l'enfant il bute sur quelque chose, souvent, il faut tisser un peu autour, il faut aller voir un peu autour pour après reprendre après.
Et ça, je pense que c'est un conseil très précieux pour les enseignants qui nous écoutent parce que je pense que c'est un peu… On aurait tendance à se dire, bah non, il n'y arrive pas, on va rester sur ces nombres-là, on ne va pas tisser autour, même pour des nombres plus grands. Donc ça, je pense que c'est vraiment précieux.
Oui, je pense qu'il ne faut pas être trop linéaire dans l'enseignement.
Oui.
Surtout que pour les nombres, en tout cas, c'est les nombres jusqu'à 20 qui sont les plus durs.
Ben oui, parce que le 17, 18, 19, ça va. Mais de 11 à 15, on ne dit pas 10, 15, 19.
C'est pas régulier. Enfin, ce n'est pas forcément intuitif comme ça. Donc, vaut mieux commencer par les nombres entre, on va dire, entre 30 et 60. Quoi. En tout cas, on peut faire travailler ces nombres-là sans se préoccuper si l'enfant ne sait toujours pas dire 20. Et même dans ce cas-là, je reviens à celui qui ne sait pas dire 20, pourquoi pas appeler ça 2-10, à la manière asiatique, si on veut. Ce qui compte, c'est que l'enfant il comprenne que quand il voit 20, que c'est 2-10.
C'est exactement ça, ce qu'on fait dans la pédagogie Montessori. On commence par à dire 2 dizaines, 3 dizaines, 8 dizaines, 9 dizaines, et ensuite on apprend que ça s'appelle 20, 30, 70, 80, 90, c'est exactement ça.
Voilà, c'est ça. Il faut que l'essentiel dans la numération, parce que la numération, c'est vraiment un problème pour une bonne partie des enfants que je vois. L'essentiel dans la numération, c'est qu'ils comprennent que quand ils voient 20, que c'est 2-10.
Ben oui. Voilà.
Après, comment ça s'appelle? Bon, évidemment, à un moment, il faut le savoir, oui. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Parce que pour faire du calcul, il faut avoir la numération, avoir compris le sens des nombres. Et c'est pour ça que 80, c'est à la fois compliqué, mais c'est aussi intéressant à étudier. C'est que dans 80, vous entendez 4, 20. Parce qu'il y a, c'est vrai, il y a 4 fois 20, mais ça, il faut le montrer. L'enfant, il ne va pas le trouver tout seul. Hein.
Ouais.
Il peut l'entendre pendant des années sans avoir jamais fait le rapprochement. Voyez.
Oui.
Comme nous, quand on dit carré, nombre carré, il y a des gens qui n'ont jamais fait le rapprochement avec un carré.
C'est ça. Je suis maître le jeudi et je m'occupe d'une enfant de CM1 qui n'arrive pas avec 70, 80, 90. Et donc, on a mis pour 80, je lui ai bien mis les 8 dizaines et j'ai dit, tu vois, on entend 80, 4 fois 20. Et donc, je les ai bien séparés pour que les 2 dizaines soient vraiment plus visuelles, enfin, qu'il y ait 4 paquets de 20. Quoi. Non.
Oui, c'est ça, faut le montrer. Faut le montrer parce que souvent en mathématiques, il y a trop d'implicites. Entre l'enseignant et l'élève, il y a des implicites que l'élève il n'a pas toujours en fait. Que même si pour nous ça paraît même un peu évident, mais ben non, c'est pas forcé. Et des choses comme ça, c'est vraiment l'occasion. Et pour le 80 aussi de montrer, ça s'écrit avec un 8. Pourquoi on écrit 80 avec un 8 alors qu'on entend 4, on entend 20, on n'entend pas 8.
Ouais.
Mais que ça s'écrit avec un 8 parce qu'il y a 8 dizaines, 8 paquets de 10.
Ouais.
Et qu'il faut penser à tout ça.
Et il y a des enfants qui n'ont pas besoin de toutes ces étapes-là. C'est 8 dizaines, 80, ça passe tout seul. Donc, c'est là où je me rends compte de l'importance de la différenciation en classe. C'est tellement compliqué de vouloir les faire avancer tous au même rythme. C'est impossible.
Oui, c'est vrai. Il y a des enfants pour qui tout ce qu'on est en train de dire là, ils l'ont compris tout seul.
Oui.
Ou en famille, parce qu'il ne faut pas négliger le rôle de la famille. On y revient. On sait bien que, par exemple, quand un enfant il arrive en maternelle, donc il est vraiment, il n'a pas été enseigné encore, ben, il y a une grande différence selon les enfants entre ceux qui ont déjà un bagage mathématique informel et ceux qui n'en ont pas, ou très peu. Et ça va jouer après. Ça a été montré aussi. Hein. Toutes ces mathématiques qu'on fait à la maison, l'air de rien, sans y penser, sans le faire exprès même, hein.
Oui, mettre la table, partager les fraises pour qu'on en ait tous le même nombre.
C'est ça, voilà. Et là, si un parent il veut aider son enfant, à la limite, c'est en faisant ça, je pense. Parce que souvent, les parents, quand un enfant il a des problèmes en mathématiques, les parents, eh ben, ils veulent aider, bien sûr. Ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que quand on est parent, d'abord, ce n'est pas toujours la meilleure place, ce n'est pas toujours le plus facile. Et puis, c'est là où il y a l'aspect qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure à propos des difficultés en mathématiques. Il y a aussi les aspects, on va dire, psychologiques, hein, qui comptent et qui vont se retrouver dans la relation parent-enfant, qui est une relation particulière. Mais c'est pour ça qu'il y a une bonne distance à trouver. Souvent, elle se trouve toute seule, hein, mais parfois non. À trouver entre l'enfant et le parent sur comment l'aider de façon à ce que ce soit stimulant et pas inhibant, si vous voulez. Parce qu'on a vite fait de passer de l'un à l'autre dans certaines situations. Et donc, pour revenir à ce qui se fait en famille, bah oui, même les jeux de société, vous savez, où on avance sur une file numérique, les petits chevaux, c'est important pour ancrer des choses et pour habituer l'enfant à être dans quelque chose de numérique ou même les formes géométriques. Enfin, il y a plein de... Évidemment, quand on fait la cuisine ou le bricolage ou je ne sais pas quoi, il y a plein d'occasions de mettre du nombre, vous voyez, d'être dans un univers où on compte, où il y a des nombres, où il y a des mots mathématiques. Et ça fait un bagage que l'enfant... Et puis, ça fait une habitude aussi pour l'enfant, qui va pouvoir ensuite exploiter quand il sera en classe.
Et quand on pense que les premières années sont quand même vraiment les plus importantes pour les fondations de l'intelligence, on se dit qu'il y a une énorme différence entre un enfant qui n'a pas eu la chance d'avoir des jeux de société, des échanges avec ses parents, des échanges mathématiques, entre guillemets, avec ses parents, et un enfant qui en aura eu régulièrement. L'écart, du coup, va être énorme.
Oui, c'est comme pour le langage, en fait. Vous savez, en maternelle, les enfants arrivent, ils n'ont pas du tout tous le même niveau de langage. Hein.
Ouais.
Et on sait que ça joue, même si l'école, elle essaie de compenser les choses. Mais pour les mathématiques, c'est pareil. En même temps, bon, pour revenir peut-être sur l'aspect psychologique, ce n'est pas qu'une question familiale. Hein. C'est aussi comment chaque enfant ou adolescent, comment il se positionne à un moment sur... à propos de cette matière scolaire-là, qui peut être un peu particulière. Et c'est là aussi, il faut des compétences, mais psychologiques, du coup, pas seulement cognitives. C'est-à-dire, je pense que faire des mathématiques, ça vient vous titiller un peu sur... vous solliciter, quoi, vous mobiliser sur des points du développement psychologique aussi. Par exemple, comme c'est abstrait, justement, c'est ce qu'on appelle... Le développement de la symbolisation chez l'enfant, c'est-à-dire cette capacité à quitter les objets, voyez, à se séparer, à vivre sans l'objet ou la personne à côté, voyez, tout ce développement-là au cours de l'enfance. Les mathématiques, ça rejoue quelque chose de ça, comme l'apprentissage de la lecture, hein, où on travaille sur du langage, où il n'y a personne en face, où on parle d'objets qui n'existent pas. Enfin, vous voyez, c'est très distant, il y a une distance importante. Il y a une capacité comme ça. Et puis, il y a une capacité aussi personnelle à supporter des choses. Hein. Parce que les problèmes, par exemple, il faut les supporter au niveau psychologique. Hein. Et nous-mêmes, parfois, on voit bien qu'il y a des jours où on supporte plus ou moins bien, selon si on est bien luné ou en forme. Et ça peut être vite pris comme quelque chose de violent, que l'enseignant envoie à ses élèves, hein, un problème à résoudre. Et il faut passer cette capacité à supporter. D'abord qu'on ne sait pas tout de suite, hein, il faut supporter ça, qu'on n'a pas la réponse tout de suite, qu'il va falloir chercher. On n'est pas sûr, on ne sait pas si on va trouver à la fin. Et en même temps, il faut penser que ce n'est pas une question de vie ou de mort, vous voyez, qu'il faut pouvoir être à la fois motivé et pas trop paralysé par l'enjeu.
Mais pour garder la motivation, il faudrait aussi, dans l'idéal, qu'il n'y ait pas de notes ou qu'il n'y ait pas un retour négatif sur les maths. Un enfant qui perd des points, qui fait de son mieux pendant l'évaluation et qui perd des points à chaque fois qu'il y a une erreur, ça ne va pas lui donner envie de progresser, de se dépasser, de continuer de chercher. la perte de points de la note, ça va au contraire casser un peu son enthousiasme.
Oui, c'est vrai que ça a un côté assez impitoyable, hein, ce côté-là. Bon, ce qu'il faudrait, enfin, ce qui est important, parce que, bon, c'est vrai, il y a des enfants qui ont, on va dire, des facilités, quelle que soit l'origine des facilités, hein, des facilités pour faire tout ça. Bon. Et puis, il y a aussi des enfants qui n'ont pas de facilités, qui ont vraiment beaucoup de mal, qui rament, comme on dit, hein, bon, pour différentes raisons, là aussi. Mais ceux qui ont des difficultés, même des grandes difficultés, ils vont quand même apprendre des choses en mathématiques. Ils vont quand même progresser. Mais évidemment, ils ne vont peut-être pas progresser au rythme théorique des classes, des cycles, vous voyez. Et c'est là où il faut faire une différence pour que l'enfant ne soit pas découragé. Parce que si on évalue que la progression par rapport au rythme officiel, ben, il y a certains enfants qui vont vite être perdus et découragés parce que évidemment ça ne suit pas. Mm-hmm. Par contre, si on évalue par rapport à là où il en était avant, ben, on va voir que même les plus en difficulté, ils ont progressé au bout de quelques mois. Ou même les enfants qu'on dit handicapés, avec des handicaps lourds, ils peuvent tout à fait progresser, mais il faut du temps et on n'oblige pas à ce qu'ils aillent non plus jusqu'au bout de tel cycle. Mais il y a une progression. Et tout le monde peut avoir une progression et c'est ça qui est un peu encourageant aussi et qu'il faut avoir en tête, même si les impératifs scolaires ils sont un peu plombants par moment.
Et j'aimerais vous poser une question sur les compétences visuo-spatiales dont vous avez parlé au début. J'ai pensé à ma fille, hein, elle a 9 ans, elle est en fauteuil roulant. Et donc, forcément, elle ne peut pas se repérer dans l'espace comme les autres enfants. Et le repérage dans l'espace a toujours été son point faible. Par contre, au niveau mathématique, le système décimal, on a tellement manipulé le matériel Montessori, elle peut vous dire combien il y a de dizaines dans un millier ou combien il y a de centaines dans un millier. Et donc, pour faire des divisions, pas de souci. Hein, 1234 divisé par 3, elle sait très bien que le millier, on ne peut pas le partager en 3, qu'on l'échange contre 10 centaines, etc. Donc ça, elle est vraiment compétente au niveau mathématique. Par contre, au moment d'écrire les nombres pour sa division, elle sait pas où écrire. Même si je trace les lignes. Donc, à mon avis, est-ce que vous mettriez ça sous le problème des compétences visio-spatiales? Est-ce que c'est ça, du coup? Est-ce que c'est la même, enfin, c'est ça son problème?
Oui, si c'est pas un problème moteur.
Alors, écrire lui demande des efforts, mais elle arrive à écrire. Mais elle ne sait jamais à quel endroit il faut écrire, sur quelle ligne.
Oui, dans ce cas-là, ça ressemble plus à des problèmes visio-spatiaux, effectivement, que peuvent avoir certains enfants assez banalement, alors de façon plus ou moins importante. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir montrer qu'on sait faire quelque chose, même si concrètement, sur la feuille, ça n'apparaît pas comme ça. Quoi. C'est ça l'enjeu.
Ouais. Oui, c'est la division, ouais. Mais elle n'est pas encore tout à fait capable d'écrire les nombres au bon endroit.
Oui, oui. Alors, il y a parfois des aides au niveau matériel, technique, hein, qui aident certains enfants, notamment soit sur le plan informatique avec des aménagements pour qu'il y ait des cases déjà pour mettre les chiffres, etc. Soit même avec les couleurs qu'on met sur une feuille de papier. Enfin, il y a des aides. Après, c'est au cas par cas. Il faut voir ce qui marche avec telle personne, il faut évaluer ça, effectivement.
Mais les lignes de couleur, j'ai remarqué justement que ça l'aidait.
Ouais. Ben oui, normalement, oui. Ou faire plus gros, faire des couleurs, ou faire sur un écran d'ordinateur pour certains qui vont pouvoir placer les nombres et les chiffres et montrer qu'ils savent faire ce qu'on leur demande, quoi.
Oui. Donc, quand vous accompagnez les enfants, vous essayez d'évaluer quels sont les points forts et les points faibles de chaque enfant pour essayer de lui apporter un accompagnement le plus individualisé possible.
Oui, c'est ça. Puisque je pense qu'il y a plein de façons d'avoir des difficultés en mathématiques et que, alors d'une part, c'est important, j'essaye de repérer un peu le contexte dans lequel on est, parce qu'il y a des contextes plus ou moins cognitifs, par exemple, plus ou moins psychologiques. Souvent, c'est très mélangé, hein, parce que les enfants, ils sont pas tout l'un ou tout l'autre. Et en fonction de ça aussi, de voir ce qui peut aider à ce moment-là, ce qui veut dire qu'on ne fait pas tout non plus, parce que c'est pas possible. Et puis, mais il y a des points sur lesquels on peut insister qui sont des points importants dans la scolarité, quoi. C'est-à-dire, par exemple, la numération à l'école primaire, le sens des opérations aussi à l'école primaire, ça c'est important. Pour les collégiens, bah, vous avez tout ce qui est les rapports de nombres. C'est vraiment un point qui est compliqué, que vous retrouvez ça dans les fractions, dans les pourcentages, dans le théorème de Thalès, dans la proportionnalité. Tout ça, c'est des problèmes de rapport de nombres. Et en fait, il y a une partie des collégiens qui sont en difficulté avec ça, parce qu'ils ont l'habitude de manier des nombres. Ça, ils connaissent maintenant, c'est bon. Ils savent comparer des nombres, ça y voit. Mais quand vous avez deux nombres ensemble qu'il faut voir en même temps, c'est beaucoup plus dur. Par exemple, 3 quarts, il voit 3, il voit 4.
Ah oui.
Et penser 3 quarts, ça, c'est difficile. Parce qu'il faut penser le 3 et le 4 ensemble.
D'accord.
Et donc ça, par exemple, au collège, c'est un des points sur lesquels je travaille souvent. Parce que ça fait partie des choses un peu implicites qui ne sont pas en place chez beaucoup de jeunes, même des grands parfois.
Et un enfant qui n'a pas pu manipuler les disques partagés, justement, les demi, les tiers, les quarts, les cinquièmes, etc. 3 et 4, ça reste très abstrait pour lui. Mais un enfant qui a eu la chance de manipuler ces disques-là partagés, mm-hmm. moi, quand vous m'avez dit 3 quarts, dans ma tête, j'ai vu 3 quarts. J'ai pensé à mes disques rouges. Voilà. Mm-hmm. Donc, est-ce que le matériel n'est quand même pas, des fois, indispensable pour certains pour redonner du sens à ce 3 et à ce 4?
Bien sûr, oui. En remédiation, pour tout ce qui est rapport de nombre, fraction, on le fait avec soit du matériel, soit des situations avec des dessins, des étiquettes. On compare des rapports, des nombres, des rapports de nombres. Oui, il faut des médiations, hein, bien sûr, c'est essentiel. Hein. Par contre, il ne faut pas toujours les mêmes, quoi.
Oui, parce que, vous variez plus, quoi. D'accord.
Il faut varier parce qu'il y a des enfants, vous savez, ils sont un peu… Vous leur montrez des pizzas, les fractions sur les pizzas. Après, oui. Si ce n'est pas des pizzas, il n'y a plus personne. Hein.
Bah dans le matériel Montessori, il y a des disques, puis après, il y a des carrés, et après, il y a même des rectangles, je crois, pour montrer.
Voilà, il faut des lignes aussi. Voilà. Ouais. Sur des lignes. Après, il faut du concret aussi. Après, il faut 3/4 d'une quantité. Mmh. Là aussi, il faut expliciter qu'est-ce que ça veut dire, 3/4 de 20. Mmh. Voilà, faut penser à tout ça, en fait. C'est pour ça que c'est compliqué d'ailleurs, toutes ces questions. Mais au collège aussi, il faut manipuler tout à fait sur du matériel, des jeux.
Ouais. D'accord. Mais écoutez, si vous voulez bien, on va terminer par une citation, un livre et un coup de cœur ou un coup de gueule. Alors, la citation peut-être pour commencer?
Alors, je ne l'avais pas préparée.
Ah, est-ce que c'est moi qui ai oublié de vous le dire?
Oui. Je crois.
Ah, d'accord. Bon, bah alors, c'est pas grave. Vous n'avez pas de citation que vous connaissez par cœur? Non.
C'est pas grave. Alors, attendez, vous me prenez au dépourvu, là.
Pardon, j'oublie de temps en temps.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Une citation?
Oui, en rapport avec les mathématiques, en plus. Pas facile.
Ah ouais, en plus. Alors là, c'est compliqué.
Non, mais vous pourrez me l'envoyer. Si vous en trouvez une plus tard,
d'accord.
Vous pourrez me l'envoyer, puis je l'ajouterai dans les notes de l'épisode.
Oui, ça, je veux bien. Ça,
c'est pas faux.
Plus facile.
C'est ma faute. Un livre, peut-être que vous avez peut-être plus facilement un livre en tête qu'une citation. Un livre que vous pourriez conseiller aux auditeurs.
Alors, un livre, j'aurais un peu du mal. Hein. Il y en a plusieurs. Je sais pas. Alors, sinon, moi, je suis en train d'écrire un livre, mais ça compte pas. C'est pas du jeu qui va sortir dans quelques mois, aux éditions Tom Pousse, pour information.
D'accord.
Sur la psychologie des mathématiques, justement, sur ces questions-là. Et si j'ai écrit ce livre, c'est parce que, justement, aucun livre, à ma connaissance, ne disait les choses comme ça.
D'accord, bon, c'est bon,
ça va. Ouais, le problème des livres, c'est soit vous avez des choses très techniques de remédiation, ça peut être très bien, hein, soit vous avez des choses très cognitives, sur les mathématiques, c'est-à-dire tout est référé aux fonctions cognitives, ce qui est parfois utile, mais pas toujours. Soit c'est du logico-mathématique Piaget, vous voyez, mm-hmm. ce qui est parfois utile, mais pas toujours. Ou soit c'est des psychologues cliniciens qui voient uniquement l'aspect psychologique, ce qui est utile, mais pas toujours. Et moi, j'essaye de faire un peu avec tout ça, quoi. C'est pour ça... Si vous me donnez un thème, je peux vous trouver un livre, mais en général, comme ça, c'est un peu large.
Oui, ce que vous reprochez au livre existant, c'est de traiter d'un seul sujet ou sous un seul angle, si je comprends.
C'est ça, sous un angle qui est souvent un peu exclusif, quoi.
D'accord.
Comme si ça allait rendre compte de tout, alors que quand on rencontre les enfants, bah, je pense qu'ils sont pas que piagétiens ou que, vous voyez,
oui,
pas
oui.
Du tout. Pas
donc,
du tout.
Le titre, c'est « La psychopédagogie des mathématiques »
Ah, le titre, il n'est pas encore défini, mais ce sera sur la psychologie des mathématiques, ça c'est sûr.
D'accord.
Mais je ne sais pas encore le titre exactement.
D'accord.
Mais je vous le dirai quand il sera sorti.
D'accord. Et est-ce que vous avez vécu quelque chose, enfin voilà, récemment, un coup de cœur ou un coup de gueule dans l'accompagnement d'un enfant ou dans des échanges avec des collègues?
Alors, je peux vous donner un exemple, ce n'est pas vraiment ni un coup de cœur, mais un exemple, c'est hier, j'étais avec c'est une jeune femme qui fait des études d'infirmière. Elle a 21 ans. Alors, c'est une jeune femme tout à fait intelligente, adaptée, enfin, elle a aucun problème, sauf qu'elle a des problèmes avec les mathématiques depuis toujours. Et donc, par exemple, on travaillait ensemble. Et dans ses exercices à elle, parce qu'en tant qu'infirmière, elle doit manipuler des doses de produits, il y avait par exemple 3 quarts, il y avait marqué donc 3 quarts, 3 sur 4, ml. Ce que moi je traduis par 3 quarts de millilitres. Elle, quand elle voit ça, ça ne lui dit pas grand-chose. Parce qu'il y a, plein d'implicites qui ne sont pas marqués. C'est-à-dire, en fait, il faut lui montrer que ce qui est marqué 3 sur 4 ml, ça se dit, en fait, 3 quarts de 1 millilitre.
Oui.
Et tout ça, ce n'est pas marqué.
Oui.
C'est condensé. Mm. Et pour elle, ça n'avait pas de sens. En plus, millilitre, pour elle, ce n'est pas évident que… Ouais. C'est là où il faut dire aux gens, aux enfants aussi, écoute le nombre. Écoute ce qu'il te dit, le nombre. Ouais. Millilitre, on entend 1000 dedans. C'est un indice quand même, ça, oui. Ça dit quelque chose. C'est tout bête, mais souvent les gens, ils n'écoutent pas les nombres. Et donc, ça ne leur dit rien, les nombres ou les unités. Et donc ça, c'est un exemple où elle était face à un énoncé mathématique condensé qui, pour elle, n'avait pas de sens parce qu'elle n'avait pas les dessous, elle n'avait pas les mots qui manquaient.
Mm.
Voilà, c'est ce qui me vient là, comme ça, directement, parce que c'est récent aussi.
Du coup, j'ai envie de rebondir. Normalement, je ne rebondis plus à la fin de l'épisode.
Ah bon ?
Mais là, j'ai envie de rebondir sur le fait, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème à l'école, quand même ?
Alors, il y a plein de problèmes à l'école. En même temps, ce n'est pas facile d'enseigner les mathématiques. Alors, ça, c'est sûr, ce n'est pas facile. Hein. Parce que soit on est enseignant à l'école primaire, et les enseignants d'école primaire, souvent, ils ne se sentent pas forcément très à l'aise avec les mathématiques, souvent, ce n'est pas toujours. Hein. Donc, ils ont parfois une réticence ou ils ne sont pas forcément à l'aise. Et puis, ils ont des notions difficiles à enseigner déjà. Et puis, les enseignants de collège, ce n'est pas facile pour eux non plus parce qu'eux, ils sont tellement forts en maths que ça demande un effort supplémentaire pour se rendre compte que ce n'est pas si évident que ça et qu'il y a plein de choses cachées derrière ces phrases mathématiques très, très denses, très condensées. Bon, après, oui, il y a sûrement des façons plus ou moins bonnes d'enseigner. Mais le problème, c'est qu'une façon ne va pas forcément pour tous les élèves aussi. Il y a des élèves qui vont être sensibles à telle démarche et pas à telle autre. Donc là aussi, c'est compliqué. Bon, cela dit, c'est vrai que souvent, on a l'impression que… Parce que je fais aussi de la formation pour des enseignants et des orthophonistes, des professionnels du soin. On a l'impression que les enseignants, souvent, sont un peu en manque de formation sur ces aspects-là. Mmh. Ce n'est pas le tout de savoir faire une division, parce que ça, c'est, à la limite, ce n'est pas le plus dur. C'est de se demander qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut s'enseigner et comment un enfant peut le prendre et quelle place ça vient prendre dans son développement à lui. Mmh. C'est s'interroger là-dessus, quoi. Ce n'est pas être bon en maths qui fait qu'on enseigne bien les maths, c'est… se poser des questions sur ces mathématiques qu'on a à travailler.
Oui.
Mais là, il ne faut pas être tout seul, parce que tout seul, ce n'est pas facile.
Mm-mm. D'accord, on va conclure sur ces belles paroles. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation.
Ben, merci à vous.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !